Nous allons commencer ce matin par les versets 27 à 31 de Matthieu 24. Matthieu 24, 27 à 31, où il est question du signe du Fils de l'homme dans le ciel. Alors je vous rappelle que le texte grec, c'est « to semeion », « tou uyou », hein, « tou uyou », et c'est important de suivre le texte grec, hein, « tou uyou », »,« tou uto », »,« en urano », hein, le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Donc, Jésus avait annoncé qu'après les sept signes avertisseurs, et si je puis dire, dans la suite des sept signes avertisseurs, viendrait le grand signe. Si vous voulez, au point de vue typographique, je mettrais un S minuscule aux sept signes avertisseurs et un S majuscule aux signes du Fils de l'homme dans le ciel. To semeion, to you, to anthropou, in urano. Alors, je vais vous lire ces versets. C'est la version second révisée de la Bible à la colombe. Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, telle sera la venue l'avènement ou la parition du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors, pour faire une saine exégèse de l'ensemble de ces versets, il faut les placer à la lumière de la Bible hébraïque, à la lumière de la Tanakh, comme je vous disais hier après-midi. Sinon, c'est la désinterprétation assurée. Si l'on veut pouvoir bien interpréter ces paroles, il faut avoir dans la mémoire, dans la pensée, dans la méditation, ce que disent les auteurs de la Tanakh. La prophétie de Jésus concernant donc l'avènement, la venue du Fils de l'homme sur les nuées du ciel, avec toutes les images cosmiques qu'elle comporte, démontre l'extrême gravité du jugement du Seigneur qui va venir sur Israël et l'extrême gravité du bouleversement que cela va provoquer. Les images cosmiques sur le soleil, la lune, les étoiles, les puissances des cieux se trouvent dans le droit sens des prophéties de la Tanakh, jusque dans leurs expressions littérales. Il suffit de lire par exemple Ésaïe 13, 9, 10 ou Ésaïe 34, 4 ou Amos 8, 7. Je répète, Ésaïe 13, 9, 10, Ésaïe 34, 4, Amos 8, 7, Ézéchiel 32, 7, 8, et enfin Zacharie 12, 10, je répète les deux derniers, Ézéchiel 32, 7, 8, et Zacharie 12, 10, pour saisir le sens de cette parole. D'ailleurs, si je mentionne ce dernier passage de Zacharie 12:10, que dans ce passage déjà il est question des habitants de Jérusalem et de ceux qui tourneront leur regard vers celui qu'ils ont percé. Donc nous avons un ensemble de passages de l'Ancien Testament, avec tout un symbolisme cosmique, et c'est tous ces passages de l'Ancien Testament qui éclairent, n'est-ce pas ? Nous avons des frères chrétiens dispensationalistes qui vont quelquefois interpréter toutes les données cosmiques de Matthieu 24 comme ça, en appliquant un symbolisme inexistant. Ils verront, les fusées, ils verront l'aviation soviétique, ils verront des tas de choses. Alors que c'est manquer complètement à l'interprétation biblique, parce qu'on ne peut interpréter la Bible que par la Bible. Enfin, il faut en tout cas commencer par interpréter la Bible par la Bible. Et si ils avaient à l'esprit tous les textes que je viens de mentionner, et il y en a beaucoup d'autres, eh bien, ils verraient que c'est de l'aberration de vouloir saisir dans ces textes des images. D'autant plus que ce sont toujours les images d'une époque donnée. Et alors c'est intéressant, lorsque vous lisez les grands classiques dispensationalistes, ce qui est écrit vers 1880 colle avec des événements de 1880. Si c'est de 1912, ce sera la même chose. De 1925, la même chose. De 1947, et maintenant, alors il faut voir depuis parce qu'il y avait toute une histoire à propos des armées soviétiques qui devaient venir du Nord, et des trucs comme ça. Bah, maintenant que l'URSS est dans la, si bien qu'ils sont obligés, je les plains à certains égards, tous les 15 ans ou 20 ans, de revoir tout ce qu'ils ont dit pour que ça colle. Pour que ça colle. D'autant plus qu'il faut toujours que la venue glorieuse de Jésus-Christ pour l'avènement des 1000 ans sur la terre, avec Jésus revenu régnant à Jérusalem avec les saints, eh bien, il faut qu'à chaque fois, ça puisse coller, puisque ça va venir maintenant. Ça va venir maintenant. Alors, il faut donc que ça colle avec les événements de maintenant. Et alors, ce qui est terrible, c'est de voir que après 5, 10, que dis-je, peut-être 20 interprétations successives différentes, ben à chaque fois, on recommence à... Alors, il ne faut pas oublier ça. Nous ne pouvons comprendre les images qui nous sont données tant dans l'Apocalypse de Saint Jean que dans les Apocalypses synoptiques, nous ne pouvons les comprendre qu'en laissant le symbolisme vétérotestamentaire les éclairer. Et alors, à ce moment-là, on s'aperçoit, je vais vous citer quelques textes, rapidement. Par exemple, le psaume 18. « La terre fut ébranlée, trembla, les fondements des montagnes frémirent, et s'ébranlèrent parce que la colère du Seigneur s'était enflammée. Il s'élevait de la fumée de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. » Et alors, « Il inclina les cieux et descendit une épaisse nuée sous ses pieds. » Il était monté sur un chérubim et il volait, il planait sur les ailes du vent. Voilà un exemple. Avec, vous avez là des éléments très importants, en particulier la nuée. Mais vous avez la même chose si je lis par exemple Jérémie 4. En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, vent brûlant des crêtes du désert sur le chemin de la fille de mon peuple. Je regarde la terre. Voici qu'elle est informe et vide. C'est la reprise du Tehu Behu de Genèse 1-2. Vers les cieux, et leur lumière n'est plus. Je regarde les montagnes, et voici qu'elles sont ébranlées. Toutes les collines chancellent. À cause de cela, le pays est en deuil. Et les cieux. Autrement dit, chaque fois qu'il s'agit d'un jugement de Dieu, que ce jugement soit sur Israël, que ce jugement soit sur Édom, que ce jugement soit sur l'Assyrie, ou qu'il soit sur l'Égypte, chaque fois qu'il est question d'un jugement de Dieu, il y a toute une imagerie cosmique qui est utilisée par les prophètes. Les prophètes ne décrivent jamais un jugement de Dieu, quel qu'il soit, dès qu'il s'agit du jugement d'une nation, fût-ce la nation d'Israël, sans avoir toute une image accompagnatrice cosmique. Alors, évidemment, on peut s'étonner, et nous, je dirais, nous particulièrement, parce que nous sommes marqués par des siècles de rationalisme et de littéralisme, etc., nous avons peine à comprendre le symbolisme tant vétéro-testamentaire que en ce qui concerne le dire ou les écrits des apôtres. Non, il y a un symbolisme biblique. Ce n'est pas un symbole, attention, ce n'est pas un symbolisme arbitraire, puisque c'est un symbolisme qui trouve peu à peu ses définitions. Vous commencez par la Torah et en particulier par la Genèse, parce que la Genèse, nous l'avons vu, est pleine de symbolisme. Alors, il faut accepter ce symbolisme biblique. Tandis que, moi je dirais que l'un des travers des dispensationalistes, c'est que ce sont de terribles occidentaux rationalistes. Pour eux, il faut tout prendre au pied de la lettre. C'est une expression qu'ils emploient quelquefois. Il faut prendre au pied de la lettre. Pas du tout. Le sens de certains versets bibliques n'est compréhensible que si on ne prend pas au pied de la lettre. Je vous en ai donné un exemple très simple, qui est d'ailleurs dans les discussions avec les dispensationnistes, ça marche toujours. Bien sûr, quand vous leur donnez cette parole, ils ne savent pas bien qu'en fait. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Or, il faut tout prendre à la lettre. Il faut tout prendre au pied de la lettre. Hein? Voilà, ils ont un exemple là. Alors, c'est pas possible. On ne peut pas. Il y a un parler biblique qui est un parler symbolique. Ça n'est pas le symbolisme oriental. Parce que, par exemple, si l'on étudie les textes mésopotamiens ou les textes perses, où il y a beaucoup de symbolisme, là, on est dans le même symbolisme que le symbolisme des apocalypses juives. C'est un symbolisme sans définition. Je veux dire par là, un symbolisme arbitraire que chaque auteur a. D'une apocalypse juive à une autre, d'un texte mésopotamien à un texte perse ou d'un texte perse à un texte égyptien. Vous avez du symbolisme oriental. Mais c'est un symbolisme, je dirais, qui ne se définit ou ne se précise d'aucune manière. Tandis que le symbolisme biblique se précise. Et je dirais, si nous mouvions dans notre pensée davantage dans la Bible, si nous, les images de la Genèse ou des prophètes nous venaient à l'esprit quand nous lisons, nous éviterions toute mésinterprétation, toute désinterprétation. Nous pourrions vraiment interpréter. Alors je pense que, de même, par exemple, au sujet du jour du Seigneur, il faut vraiment oublier la Bible pour ne pas voir qu'il n'y a pas un jour du Seigneur. Il y a des jours du Seigneur. Si bien que quand on nous annonce le jour du Seigneur vient, il faut exégétiquement et par le contexte bien voir de quel jour du Seigneur il vient. Parce que le jour du Seigneur dans la Bible, c'est le jour du sabbat. Et pour l'église apostolique, c'est le dimanche. C'est le jour du Seigneur. D'ailleurs, Jean, au début de l'Apocalypse, le dit. Le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur qu'il a une vision. Bon, alors le jour du Seigneur, là, bon, c'est le dimanche. C'est un jour de la semaine. Bon. Mais nous avons, par exemple, les fameux passages, là, c'était connu, on le disait en latin, dies irae, dies illa. Jour de la colère, ce jour-là. Hein? Dies irae, dies illa. Eh bien, ça marque un jugement. Et alors, c'est curieux, mais toujours, la nuée accompagne ces textes. Je vous cite quelques exemples, Ésaïe 19. Voici le Seigneur monté sur une nuée rapide, il vient sur l'Égypte. Ou bien Joël 2, versets 1 et 2. Que tous les habitants de la terre frémissent, car le jour du Seigneur vient, il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Hein, c'est intéressant de voir ça, parce que ça a été repris, ça, à propos des camps de concentration. Hein, nuit et brouillard. Hein. Alors, vous avez la même chose dans Nahum. Le Seigneur est un Dieu jaloux, il se venge. Le Seigneur se venge, il est plein de colère. Les nuées sont poussière à ses pieds. Et un dernier texte, celui de Sophonie au chapitre 1, il est proche. Le grand jour du Seigneur, il est proche, il arrive en toute hâte, un jour de nuée et de brouillard. Vous voyez même l'expression, un jour de nuée et de brouillard, est reprise par plusieurs prophètes différents. Alors, ce que je dis du jour du Seigneur, il y a le jour du Seigneur qui est le jour de son jugement sur l'Égypte. Il y a le jour du Seigneur qui est le jour de son jugement sur Babylone. Il y a le jour du Seigneur dont nous parlons aujourd'hui, qui est le jour du Seigneur dans son grand jugement sur Israël. Il y a le jour du Seigneur qui est le dimanche. Il y a le jour du Seigneur quand il viendra dans sa gloire. Alors, c'est une erreur exégétique que de bloquer les jours du Seigneur en un, comme s'il n'y avait qu'un jour du Seigneur. Et c'est la même chose à propos du jugement. Il y a le jugement dernier. Mais, vous le savez, toutes les dogmatiques chrétiennes, catholiques, orthodoxes, évangéliques, réformées, sont d'accord là-dessus. Il y a le jugement à l'heure de notre mort. Le jugement à l'heure de... In hora mortis nostrae, à l'heure de notre mort. Il y a le jugement de Dieu. Il y a un jugement de Dieu. Il y a des jugements de Dieu historiques, qui coïncide d'ailleurs bien souvent avec ce que l'auteur biblique appelle le jour du Seigneur. Alors, le jour du Seigneur, le jugement du Seigneur. Il n'y a pas qu'un jour du Seigneur, il n'y a pas qu'un jugement du Seigneur. Il y a le jugement à l'heure de notre mort, il y a le jugement à tel point de l'histoire. Par exemple, il faudrait toute une étude sur les nations, sur ce que sont les nations dans la Bible, et le refus qu'a Dieu de l'instauration d'un empire, quel qu'il soit. Ah, ça c'est très important de voir. Dieu a voulu des nations et Dieu ne veut pas des empires. Là, ça va très loin, parce que je n'entre pas dans le sujet, c'est pas mon propos, mais au point de vue politique, il y a une politique tirée de l'Écriture sainte. Vous savez que Bossuet a écrit une politique tirée de l'Écriture sainte, mais comme c'est une politique tirée de l'Écriture sainte qui n'est pas tellement biblique, il faut pas. Mais il y a une politique tirée de l'Écriture sainte. Dieu, chaque fois qu'il y a un empire qui commence à prendre de l'importance, il le raye de la carte. Mais ça, c'est un jugement. Dieu ne veut pas. Et ça a commencé avec la tour de Babel. Les hommes ont voulu construire un empire. Allez, Dieu les a dispersés à nouveau en nations. Et ça a été la même chose. Il y a eu l'Empire romain. Il a été balayé. Il y a eu l'Empire de Charlemagne. Il a disparu. Il y a eu l'Empire de Napoléon. Pas les choses. Il y a l'Empire soviétique pour lui disparaître. Il y a maintenant le nouvel empire, qui va certainement disparaître tôt ou tard, ce sera l'empire des États-Unis, dans la mesure où, à nouveau, tout à coup, les États-Unis voudront établir une espèce de règne sur le monde. Mais je dirais que c'est la même chose si vous prenez un empire qui serait celui de l'ONU ou n'importe quoi. Dieu juge tout empire, et pour le bien de l'homme, parce qu'il a voulu que les hommes vivent dans des nations, mais pas dans des empires, et que tout empire, tôt ou tard, devient totalitaire. Et Dieu ne veut pas du totalitaire, parce que Dieu veut maintenir la liberté des hommes et la liberté des nations. Ah ben voilà, c'est il nous faut apprendre ça. Alors, les jugements historiques de Dieu, on n'en parle pas assez. Alors, évidemment, il faut éviter ce que j'appellerais le jugement automatique. Hein, quand je dis, par exemple, que Dieu ne veut pas d'un empire, ben, quand même, prenez, par exemple, le Troisième Reich. Hein, le Troisième Reich. Ein Volk, ein Führer, un peuple, un seul peuple, un seul chef, un seul guide. Bon, mais ça a été balayé en un peu plus de 10 ans. Tandis que l'Empire soviétique, pour prendre un exemple, ça a duré quand même près de 80 ans. Alors, il ne faut pas attendre un jugement de Dieu. Mais la prière de l'Église doit toujours être une prière pour la fin d'un empire. Chaque fois qu'un empire commence à opprimer les hommes, les églises et les chrétiens doivent prier pour que cet empire soit rayé de la carte. Ah oui, c'est bien. Si bien que c'est très curieux. Au moment du Troisième Reich, pour reprendre un exemple, parce que moi j'ai vécu cette époque et tout ça, j'ai fait la guerre, c'était très curieux. Les gens étaient étonnés parce qu'on priait pour Hitler. Et bien sûr qu'il fallait prier pour Hitler. Il fallait prier pour qu'Hitler disparaisse au plus vite. Voilà. Et c'est une chose que nous devons recevoir de la Bible. Les jugements historiques de Dieu sur les empires. Il y aurait d'ailleurs à faire là, mais il faudrait que quelqu'un qui ait des qualifications à la fois de théologien et d'historien, il y aurait un mémoire à faire là-dessus. Pourquoi Dieu bénit en quelque sorte les nations et prononce une malédiction sur les empires, et pourquoi est-ce que c'est une constante historique? Déjà, c'est pour ça que c'est normatif, dans la Bible. Et, je vous le répète, ça commence avec la tour de Babel. Ça commence avec la tour de Babel. Mais, c'est répété. Vous avez la fameuse vision de Daniel. Vous avez peut-être trouvé que j'ai parlé un peu trop souvent de Daniel, mais je dirais, en un sens, Joseph Flavius Josèphe avait bien vu que Daniel était très important pour la lecture de la Bible. Ben, la vision de Daniel, justement, la vision de Nebuchadnezzar avec la statue, avec les quatre empires qui étaient succédés, et puis finalement, c'était le seul empire que Dieu veut, parce que Dieu veut un empire, tu vois. C'est l'empire de son royaume. Alors, c'est la pierre qui va tout à coup frapper les pieds en partie d'argile de la statue, et alors, toute la succession des quatre empires, babyloniens, perses, grecs, romains, tout ça, c'est mis à bas par la petite pierre qui doit devenir une montagne et qui est en réalité le royaume de Dieu. Royaume de Dieu, la petite pierre, royaume de Dieu, la grande montagne qu'elle devient. Donc, là, s'il y a un empire que Dieu veut, c'est l'empire de son fils Jésus-Christ. C'est l'empire de son royaume. Mais les royaumes politiques, quels qu'ils soient, Dieu n'en veut pas. Alors, le jour du Seigneur, la venue du Seigneur, le jugement du Seigneur, ça n'est jamais possible d'en donner une interprétation univoque. Je veux dire par là, il faut voir de quel jugement ou de quel jour ou de quelle venue il s'agit. D'ailleurs, le mot que nous traduisons, par exemple, le mot parousia, le mot grec parousia, c'est un mot qui est traduit quelquefois et à juste titre, simplement une présence. Nous traduisons généralement parousia comme venu. Bon, c'est pas que ce soit faux, venu, mais présence est très juste. Quand Dieu se présente, il vient. Et alors, par exemple, c'est un fait que Dieu vient aussi dans le domaine canonique au sens judiciaire de l'Église. Vous savez que c'est à propos de l'Église, il y a deux textes dans Matthieu où Jésus emploie le mot Église, et l'un de ces textes, il y a un des textes qui est « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église », mais il y a aussi le texte au sujet de la discipline ecclésiale. Et là, il est dit que si tu n'arrives pas à vaincre ton frère, à convaincre ton frère, alors amène avec toi deux ou trois témoins. Et là il est dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une allusion à la présence de Dieu lorsque dans une église locale des responsables ensemble examinent le cas de quelqu'un. C'est très important, parce que c'est toute la question dont je ne parlerai pas aujourd'hui, d'excommunication, qui entre en ligne. Et là, il y a une promesse qu'il va venir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il sera venir? Il ne va pas apparaître au milieu des... Il dit, je suis au milieu d'eux. Il y a une présence. Donc faisons attention. Même le mot parousia est un mot au sens élastique, qui peut être traduit « venu », mais qui, dans certains cas, peut être traduit simplement « je suis présent ». Au lieu de dire « je viens », »,« je suis présent ». C'est une parousie. Alors, une fois qu'on a dit cela, alors on s'aperçoit que « vient Seigneur Jésus ». Viens Seigneur Jésus. Mais, je dirais, nous devons dire « vient Seigneur Jésus » lorsque, le dimanche, nous nous réunissons pour rendre un culte à Dieu. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus, je vais mourir. Je suis à l'heure de ma mort. Je prie. Viens Seigneur Jésus. Les martyrs qui vivaient la grande tribulation, qui voyaient de leurs frères crucifiés, de leurs autres frères jetés aux bêtes dans l'arène, de leurs autres frères servir de torches dans les jardins impériaux, tout ça. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher, ces martyrs, c'est dit d'ailleurs en toute lettre dans l'Apocalypse, de crier vers le Seigneur pour qu'il vienne afin de bousiller Néron et de détruire les gens. Et c'est là que les psaumes dits imprécatoires prennent toute leur force. Ben, là aussi, nous demandons la venue de Dieu, la venue du Christ. Mais ça ne veut pas dire que nous demandons sa parousie. Nous demandons qu'il vienne et qu'il délivre. Hein, dans le texte de l'Apocalypse, c'est très net. Les âmes des martyrs sur l'autel crient jusque à quand? Quand est-ce que tu viendras? Quand est-ce que tu exerceras ta justice sur ceux qui font de nous des femmes qui sont violées, des hommes qui sont brûlés, des gens qui sont jetés au bec? Voilà, il y a un cri de l'Église. Enfin, et nous le savons maintenant, mais il y a eu toute une Église martyre et apparemment silencieuse pendant toutes les années du règne de Hitler, pendant toutes les années de l'Empire soviétique. Il y avait toute une Église qui souffrait et qui demandait au Seigneur de venir. Et finalement, le Seigneur est venu. Et Hitler, qui voulait un Reich de 1000 ans, eh bien, il a eu un Reich de 11 ans, de 12 ans, de 12 ans, mettons, de 33 à 45. Un Reich, voilà. Les 1000 ans qu'il avait promis au peuple allemand, ça s'est réduit à 12 ans. Et l'Empire soviétique, qui devait mettre fin à l'histoire, puisque vous savez que selon la théorie marxiste, et l'histoire devait s'achever par provisoirement la dictature du prolétariat, et tout de suite après la dictature du prolétariat, par l'établissement d'un règne international universel. Hein, là, faut faire attention. On parle du nouvel ordre mondial aujourd'hui. Moi, je tremblerais si j'étais à la place des gens qui veulent établir l'ordre mondial, parce que je crois que tôt ou tard, ils comprendront ce qu'est le jugement de Dieu. Voilà. Alors, nous sommes donc dans cette situation où il faut interpréter la Bible par la Bible, et il faut bien voir que le jugement, le jour du Seigneur, la venue du Seigneur, tout ça, ça a une multiplicité, disons, une variété de sens. Encore que dans tous les cas, bien sûr, c'est toujours de l'approche du Seigneur, de l'arrivée du Seigneur, de la présence du Seigneur qu'il s'agit. Alors, à ce moment-là, il y a deux petits points de détail, mais je voudrais quand même les examiner rapidement avec vous pour ne pas sauter une partie de ce texte. Toutes les tribus de la terre vont se lamenter, dit Jésus. Je vous ai déjà dit que gai en grec, hein, ça peut être la terre en un sens assez vaste, mais très souvent la terre, c'est la terre d'Israël. Et là, je pense d'ailleurs qu'il s'agit de la terre d'Israël, mais, je veux dire, ça n'a pas une importance capitale, mais simplement pour vous signaler, faisons attention, la terre, ça peut avoir aussi plusieurs sens. Simplement quand on dit la terre, ça peut être simplement la terre d'Israël. C'est pour ça que, par exemple, la bête qui monte de la terre, c'est la bête de la persécution juive. La bête qui monte de la mer, c'est la bête de la persécution romaine. C'est la tyrannie apostate du judaïsme et c'est la tyrannie païenne de Rome. Bon, alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et il y a une certaine souplesse. Je dirais, il y a même ce qu'on peut appeler un jus d'image dans le symbolisme biblique. Je veux dire, les images sont... nous avons un exemple dans l'Apocalypse. On pense à un rêve, quelquefois, où on voit un agneau qui devient un lion. Il faut le faire. Dans un rêve, c'est possible. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? C'est le même qui est le lion de Juda et l'agneau qui ôte le péché du monde. Bon. Voilà, ça c'est un symbolisme biblique. Alors, il y a donc une mouvance des images. Une mouvance des images. Alors là aussi, il faut faire attention. Non seulement il faut recevoir les images avec leur symbolisme biblique, mais en même temps, il faut voir que ce symbolisme biblique est souple. C'est un symbolisme mouvant, un symbolisme où l'on voit des choses se transformer, où l'on voit un agneau qui devient un lion, ou un lion qui devient un agneau, parce que là, il faut voir qu'est-ce qui précède, c'est le lion ou c'est l'agneau. Bon, c'est difficile aussi de classer les choses chronologiquement. Bon, donc, une certaine souplesse. Alors là, il est dit que toutes les tribus de la terre vont se lamenter. Il y a de quoi, lorsqu'apparaît le signe du Fils de l'homme dans le ciel, qui est la destruction de Jérusalem, le jugement sur le peuple saint, qui est déchargé. Comme le dit une parabole, on ôte à Israël pour donner à un autre peuple, à savoir l'Église, composée de juifs et de gens des nations. Il y a ça. On ôte. Il y a eu, selon cette parabole de Jésus, il y a un transfert on passe d'Israël à l'Église, et ce qu'avait l'Église, ce qu'avait Israël, c'est l'Église qui l'a. Alors là, plus de ville sainte, plus de sanctuaire, plus de sacrifice perpétuel. Et pour beaucoup qui habitaient Jérusalem, plus de maisons, et parfois même plus de parents, plus d'amis. Vous savez, en Judée et au-delà de la Judée, dans toute la diaspora, les événements de 70, le signe du Fils de l'homme dans le ciel, avec tout ce que cela a entraîné, tout ça, ça a provoqué un ébranlement considérable. C'est ainsi que Joseph écrit dans la guerre juive, Israël était précipité au dernier degré du malheur. D'ailleurs, vous savez, quand on lit les livres juifs, Mademoiselle Dillemann m'a fait lire quelques livres qui sont écrits par des juifs. Eh bien, c'est intéressant de voir ce qu'a signifié pour les juifs. C'était en réalité l'écroulement de leur religion, puisque toute leur religion reposait sur le temple et les sacrifices, et qu'il ne pouvait plus y avoir, et qu'il n'y avait plus ni temple ni sacrifice. C'était un ébranlement épouvantable. Et encore aujourd'hui, ils ne s'en sont pas remis. Ils s'en sont pas remis. Et je crois qu'ils ne s'en remettront jamais, sauf en se convertissant à Jésus-Christ, leur Messie. Et c'est une catastrophe telle, nous dit le texte, plus exactement dit Jésus, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Autrement dit, il y a un événement qui s'est passé au centre de l'histoire, non pas... Je vous le fais noter, à la fin de l'histoire, mais au centre de l'histoire, puisque il n'y a rien arrivé de semblable depuis l'origine jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus depuis maintenant jusqu'à la fin. Hein? C'est un événement au centre de l'histoire. Hein? Matthieu 24, 21. Et d'ailleurs, il faut voir ce que dit Daniel au premier verset du chapitre 12. Et on peut dire que les lamentations d'Israël traverse et accompagne l'histoire depuis 20 siècles. C'est tragique. Quelle compassion nous devons avoir pour ce peuple qui ne cesse de se lamenter et qui se trouve toujours dans une situation impossible puisqu'il est tenu d'obéir à une loi et qu'il est dans l'incapacité de pouvoir appliquer cette loi. Alors je vais vous lire un simple petit passage dans l'Apocalypse syriaque. Ça ferait plaisir à votre professeur de Nouveau Testament. Vous savez qu'il est très polarisé par ce qui est syriaque. Vous avez dû le remarquer, c'est très important pour lui. Alors, dans l'Apocalypse syriaque, qu'on appelle généralement le deuxième livre de Baruch, ça a été écrit entre 75 et 100, donc dans les décennies juste après la chute de Jérusalem. Il ne faut pas confondre, attention, le deuxième livre de Baruch, là, cet apocalypse syriaque, avec le livre deutérocanonique ou apocryphe de Baruch, qui se trouve dans les Bibles catholiques. Hein. Il s'agit du deuxième livre de Baruch, le premier livre étant ce livre de Baruch deutérocanonique. Bon, la deuxième livre de Baruch. Alors je vous lis. Heureux qui n'est pas né ou qui est mort-né, mais malheur à nous qui vivons. Car nous voyons l'affliction de Sion et ce qui est arrivé à Jérusalem. Et vous, cieux, gardez votre rosée, cessez d'ouvrir vos trésors de pluie. Et toi, ciel, garde la lumière de tes rayons. Et toi, lune, éteins la brillance de ta lumière. Comment ta lumière brillait-elle encore alors que celle de Sion s'est éteinte? Puisses-tu avoir des oreilles, ô terre? Puisses-tu avoir un cœur, ô poussière, pour aller annoncer au séjour des morts et proclamer à la mort, vous êtes plus heureux que les vivants. Alors ce texte, je le trouve admirable, parce qu'il dit bien, dans les années qui ont suivi la destruction de Jérusalem, quelle a été la constatation, si je puis dire, spirituelle, tragique, des Juifs.
Quelle est la référence de Baruch?
Alors, la référence, je ne l'ai pas notée. Oh, vous savez, c'est tout petit. C'est tout petit, vous retrouverez la grandeur d'un texte d'une des lettres de Saint Jean, vous voyez, c'est pas de la troisième quand même. Mais enfin, je veux dire, c'est un texte assez court. Alors, je trouve que c'est un passage qui dit bien tout cela. Et alors, les anges à la trompette retentissante, ce sont, à mon sens, d'ailleurs plusieurs commentateurs le pensent, il faut pas les anges là, ce sont les messagers, c'est-à-dire les envoyés, les apôtres, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Et alors, la trompette retentissante est une allusion aussi vétérotestamentaire, il s'agit de la trompette du jubilé, l'année du jubilé célébrée en symbole la libération et la rédemption par celui qui paierait et donc ôterait toute la dette des hommes, non seulement venue des Juifs, mais aussi venue des nations. On peut dire que la chaîne du jubilé traverse toute la Bible. Je vous indique deux textes seulement à cet égard, Ésaïe 61, 1 et 2, et Luc 4, 17 à 21. Autre petit détail, pardonnez-moi de parler de quelques détails. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Cette parole de Jésus, nous n'en avons pas alors là de, je veux dire, de modèle dans l'Ancien Testament. Le seul rapport avec l'Ancien Testament, c'est que souvent, le peuple de Dieu est comparé, c'est une image employée en particulier par Ézéchiel, à un cadavre, ou plus exactement à, comment on appelle ça, aux ossements, vous savez, Ézéchiel 37. Et il est aussi question, dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, des quatre vents, hein. Esprit vient des quatre vents pour souffler sur les morts, ces morts afin qu'ils revivent. Donc il y a une allusion vétérotestamentaire là à ce que dit Ézéchiel à la fois sur les ossements desséchés de la maison d'Israël et sur l'esprit qui est appelé à venir des quatre vents. Or, la situation d'Israël à ce moment-là, c'est d'être spirituellement mort. C'est un désert, un cadavre, Israël. Et le chapitre 28 du Deutéronome avait déjà énoncé, c'est le verset 15, Deutéronome 28, 15, les malédictions qu'encourra le peuple de Dieu s'il désobéit à la parole de son Seigneur. Je vous lis, c'est les versets 25, 26 du chapitre 28. Alors, à partir du verset 15, mais c'est assez long, puisque ce que je vais vous lire, c'est dans les versets 25, 26. Le Seigneur te mettra en déroute devant tes ennemis. Ton cadavre sera la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler, pour troubler ces oiseaux du ciel. Donc, il y a certainement, dans la pensée de Jésus, une reprise de ces images tirées du chapitre 28 du Deutéronome et du prophète Ézéchiel. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors que dans le Deutéronome, il n'est question que des oiseaux du ciel, c'est un peu vague, enfin les oiseaux du ciel, on pense aux vautours, on pense à... Bon. Là, Jésus spécifie les aigles. Les aigles. Or, les Romains, au moment de la prise de Jérusalem, ont été ces ennemis qui, selon Deutéronome 28, ont mis Israël en déroute. Israël n'est plus qu'un cadavre. Et alors là, on pense que si Jésus a employé expressément le mot aigle, c'est parce qu'il était annoncé que jusque dans le sanctuaire en flammes brilleraient les aigles, symbole de l'Empire, et ces aigles qui surmontaient les enseignes des légions. Joseph rapporte, je vous cite Joseph, je vous donne la référence, c'est dans la guerre juive, chapitre partie 6, chapitre 6, paragraphe 1. Voilà ce que dit Joseph. Maintenant que les rebelles se trouvaient acculés dans la ville et que le sanctuaire proprement dit, ainsi que tous les bâtiments autour, brûlaient, les Romains apportèrent les enseignes dans la cour du temple et les ayant plantées face à la porte orientale, leur offrirent des sacrifices à cet endroit même et déclarèrent Titus, c'était Titus qui commandait là, Titus Imperator, avec les plus vigoureuses acclamations. Et un peu auparavant, non pas dans la partie 6, mais dans la partie 3, chapitre 6, paragraphe 2, Joseph avait noté que ces objets sacrés les enseignes, groupées autour de l'aigle qui marche à la tête de chaque liaison, roi des oiseaux et le plus courageux. Donc, je pense, je ne suis pas le seul, je l'ai reçu de plusieurs commentateurs, c'est que Jésus a mentionné spécifiquement les aigles, au lieu de parler de Jésus, parce que les légions romaines, et vous savez que pour Jésus et pour tous ses contemporains, ils savaient ce que c'était les aigles romaines. Les aigles romaines, elles étaient promenées depuis Césarée, le port, jusqu'à Jérusalem. Chaque année, c'était le transfert. Césarée était la capitale où résidait le procurateur. Sauf au moment des fêtes juives, alors ils s'amenaient et ils venaient pendant quelques mois à Jérusalem. En particulier toute la partie qui court de Pâques à Pentecôte. Bon, alors pendant des mois, il était là. D'ailleurs, il faisait bien parce que j'aime mieux vous dire qu'à partir du mois de juillet, d'août et septembre, il fait une chaleur caniculaire à Jérusalem. Il avait préféré à ce moment-là regagner ses demeures de procurateur à Césarée, le port au bord de la Méditerranée. Bon, mais les aigles, ça parlait pour les contemporains de Jésus. Et quand Jésus dit « Là, où est le cadavre, là seront les aigles », là aussi, Jésus donne une prédiction extrêmement simple. Alors, voyez, il y a des moments où le symbolisme et l'histoire sont conjugués. Il y a le symbolisme. D'ailleurs, les aigles eux-mêmes, les aigles des ancêtres romains, c'était symbolique. Il y a des symboles et en même temps, il y a de l'histoire. Dans le petit quart d'heure qui me reste, je ne peux pas, je n'ai pas le temps de revoir tout ce que j'aurais pu revoir. Je ne vous parlerai donc pas, je ne reprendrai pas la question de l'achèvement du canon biblique. Là aussi, avec, comme je vous l'ai déjà signalé, la prophétie de Daniel, qu'à ce moment-là, dans ce temps de la dernière septaine, il y aurait le scellement, l'achèvement, la complétion du canon biblique. Alors là aussi, il faudrait voir un petit peu s'est passé le développement de ce canon biblique entre l'année 40. À partir de 40 apparaît sans doute le premier des évangiles, à savoir selon Robinson et selon Wenham, l'évangile de Matthieu. Parce qu'au fond, on reprend dans l'ordre maintenant Matthieu, Marc et Luc. C'est-à-dire l'ordre qui est porté dans le Nouveau Testament, selon ces messieurs, c'est finalement le bon ordre chronologique. Matthieu d'abord, puis Marc, puis Luc. Ce qui donne pas mal de bouleversements dans toute la constitution du canon et la datation auquel on croyait être arrivé au sujet du canon. Alors je suis obligé de laisser tout ça. Mais je voudrais, pour conclure, vous montrer quel est l'intérêt de la distinction entre ce que j'ai appelé les deux eschatologies. Je ne crois pas que ni Chilton, ni d'autres de ses auteurs emploient eux-mêmes cette expression des deux eschatologies. Mais je pense que c'est conforme à leur pensée, même s'ils n'ont pas employé cette expression. Il y a donc l'eschatologie de l'année 70, on pourrait dire l'eschatologie du signe du Fils de l'homme dans le ciel, et puis il y a l'eschatologie dernière, celle qui concerne non plus la fin d'un monde ou d'une ère, mais la fin du monde. Et l'intérêt pour l'Église, c'est que quand l'Église a bien vu qu'il faut considérer une première eschatologie comme s'étant déjà réalisée historiquement, alors ne pèse plus sur l'Église l'idée d'une proche eschatologie. La proche eschatologie s'étant déjà réalisée, le terrain se trouve déblayé, dégagé. Parce que la seconde eschatologie, c'est une eschatologie dont nous ignorons tout, dont nous ne savons pas quand elle se produira, que le Fils de l'homme, dans sa kénose, ignorait. C'est une eschatologie, donc, qui se trouve comme un grand point dans un futur inestimable. Je veux dire un futur qu'on ne peut pas estimer, qu'on ne peut pas calculer. Bon, donc, voilà que l'Église va être dégagée définitivement, rejet du chiliasme, rejet d'une eschatologie non réalisée, bon, à savoir tout ce qui est dit de l'année 70. Alors, l'Église est libérée à la fois pour le court terme, pour le moyen terme et pour le long terme. Et ça, ça me paraît être un acquis considérable. Parce que l'eschatologie, qui a été plus ou moins à la mode depuis plus de 100 ans, et que beaucoup de chrétiens ont plus ou moins inconsciemment adopté, c'est une eschatologie qui fausse tout cela. Bien sûr, de toute façon, il y a un court terme pour chacun de nous, c'est le court terme de notre mort. Que nous vivions 40 ans, 60 ans, 80 ans, et comme on veut nous l'annoncer, comme si c'était tellement intéressant, dépasser les 100 ans et les 150 ans, il y a eu tous des articles récents sur le vieillissement qu'on va pouvoir... bon. Enfin, de toute façon, c'est du court terme. C'est du court terme. Mais le court terme, c'est-à-dire la vie d'une génération, la durée plus ou moins longue d'une vie humaine, entre la naissance et la mort, entre l'arrivée et le départ, c'est un temps à employer le plus fidèlement possible à la gloire de Dieu pour progresser dans le gouvernement de soi-même, la maîtrise de soi, le respect des prochains et l'amour de ceux qui sont confiés à notre responsabilité dans la famille, dans le métier, dans la cité, dans l'Église. Le court terme. Mais alors ça, de toute façon, le court terme, je leur ai posé la question, enfin, jeune ménage, c'est des gens dans la trentaine, est-ce que vous avez des enfants ? Oh non, 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 nous ne voulons pas avoir d'enfants. J'étais un peu soufflé. Je ne voulais pas avoir d'enfants. Oh non, parce que nous sommes à la veille de l'enlèvement. Lentement. Et il est dit que malheur aux femmes qui seront enceintes à ce moment-là, ou tout ça, il faut pas. Voilà. Alors, résultat d'une mauvaise eschatologie. Hein. Eh bien, pas avoir d'enfants. Et c'est la même chose. Vous savez qu'à un moment donné, il s'est développé, il y a 20 ans, 30 ans, je ne sais même plus exactement, le mouvement qui s'appelait Jesus People, hein, le peuple de Jésus. Ben là, c'était effarant. On enseignait à ceux qui étaient convertis à l'intermédiaire de ce peuple de Jésus qu'il fallait partir sur les chemins, les routes, annoncer l'évangile et puis se dépêcher même parce que Jésus avait dit allez vite et puis secouez la poussière de vos pieds, allez ailleurs et tout ça. Et ça, et pas de métier. On apprenait à des jeunes gens et à des jeunes filles de ne pas apprendre de métier. Il n'y avait plus le temps même de se préparer à avoir un métier, à exercer un métier parce que Jésus allait venir. Ou plus exactement, ça allait être l'enlèvement, the rapture. Allez. Alors, pas d'enfant, pas de métier. Ah. Donc, vous voyez que, même pour le court terme, on arrive à une grande différenciation. Attendez, je vais vous demander, je ne peux plus absolument regarder, là, parce que j'ai le soleil en plein dans la figure. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour le court terme même, c'est important. Mais alors, avec une eschatologie que j'appelle de proximité chronologique, il ne va plus y avoir de moyen terme. Parce que le moyen terme, ce n'est pas le temps comme le court terme d'une génération, le temps d'une vie d'homme. Hein. C'est un temps dans lequel il faut esquisser et préciser les orientations solides et nécessaires au progrès qui doit être poursuivi par les chrétiens en chaque domaine, selon la patience de Dieu et le pouvoir de sa grâce. Tout ça, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Parce que le moyen terme, ce n'est pas une génération. Le moyen terme, disons, une génération, c'est, mettons, 30 à 50 ans. Mais à moyen terme, c'est au moins un siècle et demi. Enfin, on ne peut rien faire. Il y a un exemple que donne, je ne sais même plus si c'est Chilton ou un autre, mais enfin, l'exemple me paraît bon. Quand nos ancêtres, au Moyen-Âge, bâtissaient les cathédrales, Vous savez combien de temps on prenait pour bâtir certaines cathédrales? 2 siècles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pour ça que les églises qu'on construit maintenant, c'est de la pacotille. Parce que je dirais que à quoi bon construire pour rien? Mais alors c'est surtout grave pour le long terme. Parce que le long terme, c'est ce dont nous devons avoir la vision comme chrétiens. À savoir la vision d'une chrétienté qui couvrira l'univers comme les eaux couvrent le fond des mers. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Déjà, le court terme est bousillé. Mais il y a la suppression totale du moyen terme et du long terme. C'est-à-dire que le règne du Christ, qui doit s'étendre sur la terre comme au ciel, et que le Christ a inauguré, et que les apôtres en ont posé les fondements, eh bien, tout ça, ça n'existe plus. Alors, c'est le sens du règne du Christ sur la terre, et donc le sens d'une vision de l'Église, non seulement à court terme, mais à moyen terme et à long terme, qui disparaît. C'est tout le sens aussi de l'ordre culturel. Il faut dominer sur les règnes végétaux, animaux, minéraux. Il faut dominer. Il faut que toute la terre soit sous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute pensée soit amenée captive à ses pieds et sous l'autorité de sa parole. Mais c'est une vision merveilleuse. Mais c'est une vision qui est à long terme pour l'Église, même si pour un chrétien individuel, il n'a pas... Regardez, on donne souvent l'exemple du vieillard, du vieux paysan, qui va planter un petit arbuste dans son champ. Il sait qu'il ne le verra jamais, l'arbre. Mais ça ne fait rien. Il le plante, parce qu'il a un sens des générations à venir. Il a un sens de ce qui arrivera à la génération de ses enfants, de ses petits-enfants. Il a une vision à court terme, à moyen terme. À court terme, il sait qu'il en a pour quelques années à vivre. Mais dans son œil, les yeux de sa foi, il a la vision de ce que Dieu prépare et de ce qui arrivera. Et ce n'est pas une vision de défaite, c'est une vision de victoire. Ce n'est pas une vision, je dirais, décourageante. Décourageante. C'est décourageant, être marié et n'avoir pas d'enfant. Être jeune et de ne pas se préparer à un métier, à un ministère. C'est décourageant tout ça. Pauvre Jesus people. C'est décourageant. Décourageant. Je bénis le ciel de n'avoir jamais fait partie de ces Jesus people. Mais, par contre, regardez Saint Augustin, déjà. Regardez les grands docteurs du Moyen-Âge. Regardez surtout les réformateurs. Oh, c'est qu'ils ont une vision. Calvin, vous le savez, ça a été son grand malheur, n'a pas eu d'enfant finalement. D'ailleurs, il a vécu un très court temps avec Idelette, sa femme. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet le livre remarquable, remarquable, qu'on ne connaît pas assez, de François Gonin, qui a été professeur d'histoire dans cette faculté pendant quelques années, sur Idelette. La femme de Calvin. Ça s'appelle Idelette, épouse Calvin. C'est un livre, vous apprendrez beaucoup de choses, parce que c'est un historien, je veux dire, c'est un romancier, parce qu'on ne sait pas grand-chose, dit-elle. Donc il a construit un roman, mais c'est un roman très juste historiquement, et qui... c'est formidable. Calvin, un jour, on lui reproche de ne pas avoir d'enfant, mais il n'y était pour rien. Il arrive, il y a des ménages qui n'ont pas d'enfants. Moi, j'ai la joie d'avoir eu 5 enfants de ma femme. Bon, je suis très heureux d'avoir eu 5 enfants. Mais Pierre Marcel, mon ami Pierre Marcel, comme Calvin, il n'a pas eu d'enfant. Mais je dirais, Calvin répondait, et Pierre Marcel aurait pu répondre la même chose. Je n'ai pas d'enfant de ma femme. Mon grand malheur, c'est que nous n'avons pas eu d'enfant. Mais des enfants, j'en ai. Et j'en aurai pendant des générations. Ah, c'est la vision, non pas à court terme, mais à long terme de Calvin. Et alors, de même, nous, aujourd'hui, nous sommes dans une période de l'histoire qui est terrible, chers amis, d'ailleurs, vous en rendez bien compte. On a l'impression que l'Église est en train de rapetisser comme un pot de chagrin. tout au moins dans nos pays. Parce que ce n'est pas ce qui se passe dans certains autres pays. Mais en tout cas, en France, comme dans beaucoup de pays occidentaux, l'Église semble rétrécir comme une peau de chagrin. Et alors, on pourrait, à cause de ça, avoir une espèce de vision de l'avenir qui soit bloquée, une vision en tout cas malheureuse de ce qui est de l'avenir. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu ici ou là régression, et puis à nouveau progrès. Le progrès n'est pas automatique dans l'histoire de l'Église. Le progrès se développe, mais il a des moments d'arrêt, des moments même apparemment de recul, et puis le progrès de l'Église recommence. Et tout. Moi, je reçois de la Bible la vision d'un progrès jusqu'à ce que l'Évangile et le Christ roi l'emportent sur l'ensemble de toute la terre, comme les eaux recouvrent la mer. C'est une parole du prophète Ésaïe qui reprend. Je crois qu'il faut que nous ayons une vision de victoire. Parce que si on a une vision de victoire, même si les temps sont contre nous, ça ne fait rien. C'est Jacques Maritain, dans un petit livre qu'il avait publié juste après la Première Guerre mondiale et qui s'appelait Antimoderne, il avait une phrase qui m'a toujours illuminé. Il disait, les pentes de l'intelligence moderne sont contre nous. Les pentes de l'intelligence moderne sont contre nous. Mais les pentes sont faites pour être remontées. Voilà. Alors ça, c'est une parole chrétienne, dite par Maritain. Maritain, vous savez qu'il était un grand penseur catholique romain, thomiste. Il y a bien des choses sur lesquelles je suis en profond désaccord avec lui. Mais sur ce point, je suis d'accord avec lui. Les pentes actuelles sont contre nous. Eh bien, les pentes sont faites pour qu'on les remonte. Voilà. Autrement, et nous avons une parole de Jésus à ce sujet. C'est que les portes de l'enfer ne prépondront pas. Alors là, il faut bien voir le sens de cette parole. Souvent, on l'interprète, j'allais dire, à rebours de ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'on on interprète comme si c'était l'Église qui était menacée, et que les portes de l'enfer, ça signifierait les puissances de l'enfer, les puissances offensives de l'enfer. Mais c'est le contraire que dit Jésus. Jésus dit que les portes de l'enfer, de la cité de l'ennemi, ne pourront pas prévaloir contre l'assaut offensif de l'Église. Qu'est-ce qui va gagner? C'est l'Église. À une condition, qui est condition capitale, que l'Église fidèle à son Seigneur suive fidèlement sa parole. Écoute la parole, loi, évangile qu'est l'Écriture sainte. Et tiennent bon avec cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vous rappelle encore une fois que dans Éphésiens 6, l'épée, c'est la seule arme offensive. Eh bien, l'Église a en main une arme offensive qu'elle a reçue de Dieu, qui est la parole de Dieu, et avec ça, Satan ne peut pas tenir. Devant ça, il ne peut pas tenir. Les portes de l'empire de Satan seront peu à peu enfoncées jusqu'à ce que l'Église, par la force du Christ et de l'Esprit, l'emporte. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera chrétien, que tout le monde sera régénéré, mais ça veut dire que l'Église l'emportera sur la terre. Et quand nous prions, nous ne disons pas que ton nom soit sanctifié, mais peut-être qu'il ne le sera pas tellement, que ton règne vienne, mais où il risque pas vraiment d'arriver, que ta volonté soit faite, donc tu sais, c'est bien d'autres volontés que la tienne. Mais non, nous prions que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Allez, et c'est avec ça que nous pouvons traverser une période difficile. En ce moment, nous traversons une période difficile. Alors là, on pourrait reprendre, évidemment, je le fais un peu avec ironie, la parole de Gaulle. Nous avons perdu une bataille, nous avons perdu la guerre. En ce moment, il semble que l'Église a perdu une bataille. Mais selon les prophéties du Christ, l'Église ne perdra pas la guerre. Et finalement, c'est l'Église qui sera victorieuse. Afin d'être prête, se trouvant debout, victorieuse, parée, comme une épouse qui peut recevoir son époux. À la fin, lorsque le Christ viendra dans sa gloire, il aura pour le recevoir une Église glorieuse qui aura étendu le règne de la parole de Dieu sur la terre entière. Ça, c'est la vraie perspective eschatologique que je crois celle de la Bible, qui était celle de plusieurs des pères de l'Église, qui était celle de tous les réformateurs, qui était celle de tous les missionnaires au grand moment missionnaire du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et malheureusement, c'est la vision que l'Église moderne a perdue. Et elle l'a perdue en partie à cause de chrétiens qui se sont mis, et ce sera le mot de la fin, à avoir en tout et pour tout ce que Chilton et d'autres appellent le pessimillénarisme. Eh bien, il ne faut pas avoir un pessimillénarisme, mais un optimillénarisme, à condition encore qu'il faille qu'on ait un millénarisme, mais comme vous le savez, le tiliasme, je ne crois pas qu'il faille le traduire comme au pied de la lettre, mais le tiliasme, le vrai tiliasme, c'est toute l'étendue qui court de la Pentecôte jusqu'au retour en gloire de Jésus. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience de m'écouter, la patience. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut que vous poursuiviez cela. Vous voyez, il y a des amis qui me disent, ben, ça doit être bien drôle pour vous, à l'âge où vous parvenez, de voir les églises se retrécir, de voir le tout, tout ça. Mais moi, ça ne m'ébranle absolument pas. Parce que je ne me fixe pas sur ce qui peut se passer momentanément dans l'histoire. Mais je me fixe dans la grande perspective biblique. Et c'est pour ça que je ne suis absolument pas découragé. On peut même, et je crois qu'on va voir des jugements de Dieu se préciser, pas seulement sur les empires humains, mais sur les églises devenues apostates, ayant trahi le... Voilà. Mais je sais qu'il y aura toujours, de toute façon, une église sur la terre, et que tôt ou tard, c'est cette église qui l'emportera. Les portes de l'enfer ne pourront pas tenir devant l'assaut victorieux de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vous transmets ma conviction. Je suis forcément à la veille de mourir. Vous savez, on dit toujours, au fond, personne ne sait quand il va mourir, et on peut être jeune et pouvoir mourir. Oui, je veux bien. Mais la différence avec les vieillards, c'est que les vieillards, eux, il n'y a pas seulement qu'ils peuvent mourir, mais ils vont bientôt mourir, de toute façon. Alors, il faut avoir, je dirais, cette perception. À court terme, qu'est-ce que je vois à court terme? Je vois plutôt des choses désolantes. Je vois ma pauvre église réformée en France bien malade. Moi, à court terme, je vois la mort qui n'est plus bien loin. Ça, c'est le court terme. Mais à moyen terme et à long terme, j'aime mieux vous dire que ce que je vois, c'est le triomphe de Jésus-Christ et sa volonté, son règne, son nom se développer sur la terre comme au ciel. Voilà.
Quelle était l'eschatologie qui prévalait au Moyen-Âge? L'eschatologie. Vous y avez fait référence et apparemment vous avez une eschatologie assez optimiste.
C'est-à-dire que l'eschatologie du Moyen-Âge était en tout cas bien meilleure que l'eschatologie des modernes. Justement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient une eschatologie à la fois à court terme, à moyen terme et à long terme. Et pour eux, par exemple, le moment de la mort était quelque chose de très important. D'ailleurs, vous savez que dans l'Ave Maria que récitaient les catholiques au Moyen-Âge, alors il y avait une partie biblique, hein, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, hein, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Alors ça, c'est la partie biblique. Hein. Je te salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Bon, ça, c'est biblique. Et puis ils ajoutaient, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, nunc, maintenant, et in hora mortis nostrae, et à l'heure de notre mort. Et l'heure de la mort, c'était le court terme dont on... Si vous voulez, il fallait être prêt pour la mort. Non pas, ça ne veut pas dire qu'il fallait particulièrement prier si on voyait la mort approcher, mais ça voulait dire qu'on savait que la mort pouvait venir à n'importe quel instant. D'abord, il y avait des maladies terribles, des épidémies, il y avait des famines, faute de moyens techniques. Il y avait donc des tas de choses qui souvent rendaient la mort très proche. Mais, si vous voulez, il s'agissait d'être prêt à l'heure de la mort. Et d'être même tellement prêt à l'heure de la mort qu'on n'avait pas du tout à prier au moment de la mort, parce qu'on passait sa vie à être prêt pour l'heure de la mort. Donc, Pierre Laurent avait le moyen terme et le long terme. Alors là, on avait par exemple un sens du retour en gloire de Jésus-Christ. Et dans beaucoup de cathédrales, sur les portes de beaucoup de cathédrales, on voyait le Christ en gloire. À Chartres, vous avez ce magnifique porche où l'on voit le Christ en gloire. Et on avait cette vision. Mais on savait que c'était à long terme. Et en vue de ce long terme, alors on pouvait entreprendre des tas de choses. Et par exemple, au point de vue, moi, ce que j'ai le plus appris de Duby et de Régine Pernoud et d'autres, c'est justement qu'au Moyen-Âge, au point de vue de l'enseignement, on y allait carrément vers le long terme. D'ailleurs, on était obligé techniquement, quand on sait ce que c'est simplement que d'avoir un manuscrit de la Bible. On passait des années, des dizaines d'années, à avoir une Bible aussi fidèle au texte. Alors on se servait généralement, on traduisait directement du latin de la Vulgate de Saint Jérôme dans la langue franque et puis ensuite la langue française ancienne. Bon, je parle pour la France. Bon, mais on passait des années et on veillait. On faisait un petit peu comme les massorettes du VIe siècle. Vous savez, où on calculait tout. Il fallait que le nombre des lettres colle. Il fallait que... c'était soigneusement fait, les manuscrits. Mais ça aussi, c'est du long terme. Vous savez, vous n'auriez pas beaucoup de gens à notre époque qui seraient prêts à passer 20 ans de leur vie à écrire soigneusement la Bible. Il faut... donc une vision à moyen terme, on l'avait. Alors, moi, je crois, c'est pour ça que j'ai repris ça vous le verrez dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et je crois que le Moyen-Âge nous donne un exemple, et que la Bible nous enseigne à vivre dans le court terme, le moyen terme et le long terme. Tandis que malheureusement, comme je vous l'ai montré, les dispensationalistes, à la limite, ils n'apprennent à vivre que dans le court terme. Et ça fausse le court terme, parce que comme on attend l'enlèvement d'un jour à l'autre. Mais puis alors, il faut voir ce que ça a été. Moi, j'ai été frappé de voir qu'en discutant avec certains évangéliques dispensationnistes, et presque toujours, on a en tête le calcul, un nouveau calcul. Et au moment de tout événement nouveau, ça oblige à recalculer, mais on vit dans ce calcul. Alors, comment vous voulez faire ? Des gens qui sont persuadés qu'en 1993, ça va être l'enlèvement. Comment voulez-vous que ces gens-là vivent les mois qui viennent ? Sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan ecclésial, sur le plan politique, sur tous les plans, comment est-ce qu'ils vont pouvoir vivre ? Puisque pour eux, tout va finir dans 6 mois ou dans 1 an et tout. Ça décourage toute entreprise. Alors, à la limite, évidemment, l'exemple du peuple de Jésus, c'est un exemple extrême. Mais moi, j'ai été bouleversé. Si vous aviez vu ce jeune ménage sympathique qui me raccompagnait à la gare de Strasbourg, je commençais à leur demander « Avez-vous des enfants ?» Ils me répondent « Non ». Je dis « Vous n'avez pas d'enfants ?» Ils me disent « Non, nous ne voulons pas en avoir ». Et il m'explique, parce que comme nous allons dans les jours prochains être enlevés, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans... Oui, c'est terrible. Vous savez, ça a des conséquences. Les fausses eschatologies aboutissent à ça. C'est comme, je crois pas du tout qu'il y a eu une attente de la fin du monde en l'an 1000. D'ailleurs, la plupart des historiens disent que c'est une grande blague qui a été construite au 19e siècle. Les gens du Moyen-Âge auraient attendu la fin du monde en l'an 1000. Bon, maintenant, on sait que c'est faux. Mais je dirais, regardez comme les choses marquent toute une civilisation. Par exemple, on nous rabat les oreilles depuis des mois, sinon des années, sur l'an 2000, et que nous allons entrer dans le troisième millénaire, et qu'il faut être prêt pour le troisième millénaire. Mais c'est de l'aberration. Pourquoi est-ce que, parce qu'on comptera les années à partir de 2000, ça a amené un changement, on peut dire quasi automatique. Alors, on entre dans le troisième millénaire. Formidable. Mais l'année 2000, d'ailleurs, il faut bien voir que l'année 2000, c'est pas la première année du troisième millénaire, mais c'est la dernière année du second millénaire. Il faut faire bien attention. C'est comme 1900, c'est pas la première année du 20e siècle, mais la dernière année du 19e. Bon, mais on se trouve devant des trucs énormes. Parce que à ce moment-là, on attend de dates là, comme ça. Alors quand ça se complique avec l'astrologie, avec des histoires du zodiaque, et puis que les gens vous demandent, bon, des gens m'ont demandé comme ça. Alors vous êtes de quel signe? De quel signe?
Signe de Gémeaux.
Quoi?
Du signe de la croix.
Alors oui, on peut dire, on vous répond du signe de la croix. Mais c'est énorme de... Alors, l'astrologie, le troisième millénaire, tout ça, alors si en plus vous y ajoutez un petit assaisonnement de dispensationalisme, alors vous êtes cuit.
Bon, moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur la Terre, et que souvent ça désigne la Terre Sainte.
Souvent, je ne dirais pas souvent, mais il arrive que ça désigne la Terre Sainte.
Parce que je pense à un verset qu'on cite souvent pour justifier la mission... pour nous maintenant, jusqu'aux extrémités de la terre, qui est l'ordre de Jésus-Christ en Actes 1, verset 8.
Actes 1, verset 8. Oui, c'est... Alors, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, mais là, je pense que la terre peut désigner aussi, elle désigne la Vous savez, nous avons connu ça quand nous avons commencé à appeler l'Amérique le Nouveau Monde. Bon, alors, ça veut dire que le monde s'arrêtait au bord de l'océan Atlantique. Et c'est pour ça qu'on disait, d'ailleurs en espagnol, vous avez aussi un Cap Finistère, non?
Oui. Hein? Oui,
bon, voilà.
Au nord de l'Espagne.
Voilà. Et vous avez le bout de la Bretagne, c'est le Finistère. Pourquoi? Parce qu'on considérait que la Terre... finissait au bord de l'océan Atlantique, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, c'était la fin de la Terre. Bon. Et comme on n'avait pas du tout l'idée qu'il pouvait y avoir la Terre à l'ouest, au-delà, à l'occident, au-delà, il a fallu attendre longtemps. Il y a encore, que vous savez, il y a eu des livres, là, la référence, je ne l'ai pas en tête, mais il y a eu des livres qui ont été publiés dans les années 80, où maintenant on peut considérer que c'est démontré qu'il y a eu une pénétration de certains, entre guillemets, occidentaux dans le Nouveau Monde avant même Jésus-Christ. Et a fortiori, il y a eu des implantations dans le Québec, dans le Labrador, dans tout ça, au 9e siècle de notre ère et tout. Bon, donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'on puisse vraiment dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais entre les expéditions qui avaient pu être faites avant, ça n'avait pas donné de suite. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient traversé ne sont pas revenus. Peut-être qu'il y en a qui ne pouvaient pas revenir, d'ailleurs. Et c'est très beau de traverser l'Atlantique, sur un drakkar ou sur des navires. Mais quelquefois, le retour, c'est un autre problème. Alors, il y a eu la découverte et le retour. Et puis, il y a eu tout de suite l'aller et venue. Bon, si bien qu'à partir de là, vraiment, il y avait le Nouveau Monde. Donc le mot terre, là, c'est la même chose. Je pense que quand Jésus dit, soyez
mes... Je serais tenté de dire la Terre Sainte seulement, là.
Comment?
Là, je serais tenté de dire que la Terre Sainte, parce qu'il s'adresse aux 12, et il leur dit, je veux dire, Jérusalem, Judée, Samarie. Donc ça, c'est quand même le territoire qui est censé être, bon, un peu l'ancien...
Oui, non, mais
salomonien, et puis là, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusque...
Oui, seulement, je dirais, autant, je serais d'accord avec ça, autant, je dirais, il ne faut pas en faire une limite. Je veux dire, c'est sûr que Jésus a pu vouloir dire, là, tout le pays alentour et tout ça, puisqu'il s'adressait là. Mais n'empêche qu'il ne faut pas oublier que les apôtres, quand même, sont très vite partis, bien au-delà. Et en tout cas, même si l'ordre est un ordre pour l'immédiat tout de suite, je veux dire, il a ses répercussions. Après, de même à la limite, si vous voulez, il faut annoncer l'évangile dans toute terre qui serait encore à découvrir. Je veux dire, on n'est pas...
Alors, j'ai une question. J'ai lu dans le Saint-Ministère de Jean-Jacques von Almen, il parle, il me semble, qu'il n'y avait pas d'esprit missionnaire à la Réforme.
Oui.
Bon, on voit que c'est plutôt la génération ou deux générations après, mais qu'à la Réforme, justement à cause de ce type de compréhension, comme quoi l'Évangile avait été déjà annoncé
partout,
à cause des paroles de Paul et des choses comme ça, qu'il n'y avait pas eu cet esprit missionnaire. Alors, comment c'est, ça peut être compatible avec cette eschatologie de victoire comme extension du royaume de Dieu je veux dire, soit, bon, ou alors il pensait que ça se ferait tout seul sans qu'il l'annonce.
Oui.
Mais je pense, enfin, par rapport à Romains 11 ou Romains 10.
Mais vous souvenez peut-être que deux des paraboles de Jésus qui se suivent en Matthieu 13 indiquent l'une, celle de la graine qui devient un arbre, la semence qui devient un arbre, l'expansion, mais je dirais il y a aussi dans le sens intensif. Autrement dit, à supposer qu'à un moment donné de l'histoire on arrive à une évangélisation qui aurait été dans tous les pays du monde, ça n'empêcherait absolument pas qu'il doive y avoir une intensification de l'évangile. Autrement dit, vous pouvez avoir une évangélisation qui couvre la terre, mais ça ne veut pas dire que c'est une évangélisation qui a pénétré assez comme un levain pour que toute la pâte se lève. Et alors je crois qu'il faut toujours avoir dans l'idée que l'évangélisation du monde, c'est pas seulement l'évangélisation en extension, mais aussi l'évangélisation en obéissance de plus en plus profonde. Et en, vous voyez, parce qu'il faut amener finalement toute pensée captive au pied de Jésus-Christ, sous l'autorité de la parole de Jésus-Christ. Donc, c'est comme dans notre propre vie. Déjà, bien des aspects de notre vie ont pu être évangélisés. Mais je dirais, nous sommes quand même bien loin du compte. Parce que, par exemple, si Jésus-Christ a pris possession de mon intelligence, je dirais, il a commencé à prendre possession de mon intelligence. Mais de là à ce que mon intelligence soit pleinement à lui, vous voyez. Alors, il ne faut jamais oublier l'extensivité et en même temps l'intensité. Il y a deux... Donc, toujours deux aspects complémentaires.
Voilà, sur ce deuxième aspect que le réformateur aurait plutôt mis l'accent.
Voilà, ils ont mis l'accent là-dessus, je crois.
C'est vrai que c'était pas l'urgence.
Voilà. Pour eux, puisqu'on connaissait toute la Terre, puisque la Terre était... Bon, on savait là. Eh bien, il fallait gagner en intensité.
Par rapport à une eschatologie de victoire, comment devons-nous considérer le phénomène islamique ? Est-ce qu'on peut avoir une vision de ce côté-là ? Comment envisager l'avenir de l'islam?
Oui. Et pas, il y a un point de rattachement avec la question de l'islam qui se trouve dès la Genèse. Parce que il y a toute la question d'Agar et d'Ismaël. Bon. Et il y a quand même une promesse qui est aussi donnée du côté d'Ismaël. Même si l'héritage de la promesse est donné dans la lignée, dans la grande lignée qui va d'Abraham à Jésus-Christ, hein, avec je crois quand même que l'islam, nous devons en envisager de même pour les juifs. Notre évangélisation des juifs ne peut pas être comme l'évangélisation des autres, dans la mesure où quand même nous avons communément référence à la Tanakh. Bon, donc on a un... Et alors, même avec les musulmans, on a cette idée, ils sont quand même des fils d'Abraham, d'une certaine manière. C'est ce qu'avait en particulier très bien souligné un grand bonhomme, qui était un grand savant, qui s'appelait Louis Massignon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Louis Massignon, qui fut professeur au Collège de France, et qui était un homme dans sa prière... Il plaçait à côté de l'Église Israël et l'islam, et Ismaël. Hein? Et il avait un. Et c'est un homme qui avait appris l'arabe, il lisait couramment l'arabe, il avait étudié en particulier beaucoup El Alaj. El Alaj est un docteur de l'islam, si je me souviens bien, 8e siècle, et cet El Alaj a été persécuté par les autorités de l'islam parce qu'il avait un enseignement ils avaient deviné que l'enseignement d'El Alaj allait contre le monothéisme au sens où l'entend l'islam, parce que voilà comment ça s'est passé. Un jour on a interrogé El Alaj et on lui a posé la question est-ce que Dieu est amour, Et elle, là, j'avais répondu, « Oh, vous pensez sans doute que Dieu est amour parce qu'il nous aime. » Et alors, les autres avaient dit, « Oui, bien sûr, c'est ce que nous avons. » Ils disaient, « Non, Dieu n'est pas amour parce qu'il nous aime. Mais il nous aime parce qu'il est amour. » Alors, les docteurs traditionnels de l'islam se sont élevés contre cette affirmation de l'islam. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un amour qui aurait précédé l'existence d'autre que Dieu ? C'était donc un amour en Dieu. Mais s'il y a un amour en Dieu, aux yeux de ces docteurs de l'islam, ça attaquait le monothéisme traditionnel de l'islam. Et El Halage a maintenu que Dieu était amour en lui-même, qu'il y avait une vie d'amour en Dieu. C'est ce que nous croyons, puisque nous croyons à la Trinité, et qu'il y a donc éternellement une vie d'amour en Dieu. Et alors, il a été persécuté, El Halage, et finalement, il est mort martyr. Et Louis Massignon a fait un livre sur la vie d'El Halage. Et dans ce livre, qui date des années 30, peut-être même des années 20, enfin, parce qu'il est mort récemment, il a vécu très vieux, mais je dirais ses grandes publications ont été faites entre la Première Guerre mondiale et la Seconde. Et alors, moi j'étais très impressionné par cette histoire, et surtout de cette question que je trouve très intéressante. Est-ce que Dieu est amour parce qu'il nous aime ? Ou est-ce que Dieu nous aime parce qu'il est amour ? Autrement dit, est-ce qu'il y a une vie éternelle d'amour en Dieu ? Dieu est amour. Et alors, cette vie éternelle d'amour en Dieu, Dieu la crée en dehors de lui-même en créant des êtres capables de l'aimer. Mais Dieu est amour, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin des créatures pour être amour. Puisque sa vie de Dieu, c'est d'être amour. Il est amour en tant que Dieu. Et alors, évidemment, si Dieu est amour en tant que Dieu, le monothéisme musulman est détruit. Enfin, il est détruit, est attaqué. Et c'est pour ça que ces docteurs de l'islam, ils n'étaient pas bêtes. Ils ont bien senti qu'El Halage était drôle. Or, on sait maintenant qu'El Halage a été certainement en rapport avec des chrétiens. Et qu'en tout cas, il a eu une idée de Dieu à la fois une et plurielle. Je crois que, si vous voulez, on peut dire que la vraie idée de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, c'est une vie une, Dieu est un, et cependant Dieu est pluriel, parce que dans ce Dieu un, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'ai insisté dans le cours que je vous ai fait sur ce point que l'ange du Seigneur et l'Esprit du Seigneur dans l'Ancien Testament sont des appellations correspondantes à la vie plurielle de Dieu. Et alors, une thèse, je vous invite à penser à ça, parce que vous êtes jeune et qu'ayant un certain avenir, humain, un certain avenir en vous, ce serait intéressant d'essayer de voir Michaël. Michaël, vous savez, qui est repris tout à fait dans l'Apocalypse. Alors, il est question de Michaël dans l'Ancien Testament, il est question de Michaël dans l'Apocalypse, et beaucoup de gens ont fait, surtout au Moyen-Âge, enfin le Moyen-Âge avec ses lumières avait aussi ses ombres, pour Michaël c'est le chef des anges, ce qui est juste. Jésus-Christ est le chef des anges. Mais c'est un ange lui-même. Et alors, la question que je crois poser, c'est est-ce que Michaël n'est pas aussi un nom du Fils, un nom de l'ange du Seigneur. Et c'est Dieu, le Fils, dont il s'agit, et non pas d'un ange.
J'ai entendu Henri Boucher dire que Michaël, ce serait l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité.
Oui. Oui,
partir de Daniel.
Oui, mais en tout cas, Michaël est un nom de Dieu, et non pas le nom d'une créature angélique de Dieu. Alors oui, je vous donne ça comme piste. Moi, je n'ai pas creusé la chose. Par exemple, je ne peux pas répondre à ce que vous venez de dire.
Mais dans le cours sur Daniel, il expliquait que...
Qu'il ne s'agissait pas d'un ange.
Non, mais plutôt de la troisième personne de la Trinité. Pas le Fils, mais l'Esprit. Et ouais. Le chef des esprits, l'Esprit. Est-ce que je peux poser une question sur un autre sujet ?
Sur tous les sujets.
Alors, il y a un verset qui me vient en tête, que je n'ai pas réussi à retrouver, et donc c'est pour ça les termes, je ne sais pas s'ils sont exacts, mais dans mon esprit, c'est... Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ?
Oui.
je sais pas si c'est correct. Est-ce que ça concerne l'an 70?
Pour moi, ça concerne la première eschatologie. Au fond, la question que j'ai, parce que c'est aux Juifs que Jésus pose cette question. Il pose une question. Quand je viendrai pour le jugement d'Israël, c'est-à-dire quand le signe du Fils de l'homme dans le ciel paraîtra, hein, quand il y aura l'année 70, est-ce qu'à ce moment-là, il y aura sur la terre, sous-entendu la terre sainte, est-ce qu'il y aura encore la foi? Vous voyez, je crois, alors sur ce point, quelqu'un m'avait posé cette question, je ne sais pas qui, quelqu'un me l'avait déjà posé, je ne sais pas si c'est vous qui m'aviez posé la question.
C'est Luc 18, 8.
Oui, non. Enfin, quelqu'un m'a posé la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors je pense que là, la terre, c'est effectivement la terre où se trouvent les Juifs. Enfin, c'est comme si Jésus avait dit, est-ce qu'il trouvera la foi en Israël quand il viendra? Non, ça, d'ailleurs ce serait en contradiction formelle, sans ça, avec ce que Jésus dit au sujet de l'Église, et quand il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, parce que l'Église maintiendra la foi sur la terre jusqu'au retour en gloire de Jésus-Christ. Il faut être assuré que de toute façon, bien sûr, non seulement il y aura la foi sur la terre, mais la foi s'étendra sur toute la terre.
Alors, moi je voudrais revenir à Michel, là. Michael. Dans Jude, bon, parce que Chilton en parle, dans Jude, donc il y a l'allusion à une contestation que l'archange Michael, au verset 9, aurait faite avec le diable à propos du corps de Moïse. Alors je sais que quelqu'un comme Chilton interprète ça, puisque lui il reconnaît que c'est Jésus-Christ, il voit Jésus-Christ dans Michael, et il parle du corps de Moïse comme étant l'Ancien Testament.
C'est une question. J'ai pas étudié. La question concernant Michael, et donc la question, là vous me dites une chose très intéressante au sujet de. En me citant là le. Là c'est le verset 9, n'est-ce pas? Lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel, là aussi, on met là l'archange. N'est-ce pas? Ça peut être le signe, le chef des anges, Michel. N'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Il faudrait voir.
Et il lui dit que le Seigneur te réprime. Alors, moi j'ai un problème là, c'est Jésus-Christ qui dit que le Seigneur te réprime.
Oui, je vous dis. Non, j'ai pas. C'est une question que j'ai posée. Je préfère, vous voyez, ce genre de question, quand je ne sais pas, je peux. Je risquerais de faire une improvisation. On n'a pas le droit avec la Bible d'improviser. Il faut étudier. Non, mais ça m'intéresse. Hein. Alors, Archangelos, n'est-ce pas, peut très bien être traduit le chef le meneur, le conducteur des anges. Hein. Tandis que le mot archange a pris en français le sens, c'est un ange de first qualité. Hein. Non, mais ça m'intéresse, ça va m'apprendre à étudier la lettre de Jude.
On va se contester avec le diable, comme il y a les pharisiens qui sont aussi appelés, vous avez pour père le diable.
Oh, puis tout y entre, hein, dans la suite du texte, il y a Caïn, il y a Balaam, il y a...
Alors donc ça pourrait être aussi ce type de discours, enfin, ce que vous faisiez référence par rapport à, par exemple, Matthieu 5, le rapport qu'il y a entre Jésus-Christ comme... champion de la loi et par rapport au judaïsme de son époque qui était plutôt éloigné de la Torah.
Non, l'expression mystérieuse là, c'est qu'est-ce que ce corps de Moïse.
Parce qu'en général, moi j'ai toujours...
Parce que c'est vrai, quand on dit le corps du Christ, on désigne l'Église. Donc, le corps de Moïse, plutôt que la Bible, peut-être on pourrait dire, est-ce que c'est pas le peuple juif? Ce n'est pas le peuple juif. Lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet d'Israël, Hein? Alors il s'agissait d'Israël, le corps de Moïse. On dit bien l'Église, corps du Christ. Donc oui, on pourrait envisager le corps
ça,
de Moïse.
Je pense que Shilton dit, c'est pas...
Quoi?
Je pense que c'est ça que Shilton dit.
Ah, c'est ça. Oui.
Il me semble qu'il fait ce rapprochement.
Non, moi je verrais plutôt le rapprochement entre le corps de Moïse et le corps du Christ. Oui, alors l'Église ça. Est le corps du Christ et Israël est le corps de Moïse. Mais non, mais il faut y étudier ça. Moi je crois que ça vaut la peine de. Parce que quand même, si on se rapporte, attendez, à Hébreux 3, il me semble, il n'y a pas une histoire de la maison de Moïse.
Ah oui, c'est Moïse qui est serviteur dans toute la maison. Non, c'est ça.
Attendez, où est-ce que c'est ça? Il faut voir.
La maison de Dieu.
Voilà. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi, comme Moïse le fut sur la maison de Dieu. Hein, voilà. Dans toute sa maison. Comme Moïse le fut dans toute sa maison. Mais il s'agit de la maison de Dieu. Si bien qu'on pourrait dire, est-ce que la maison de Dieu, c'est pas Israël? Et est-ce que le corps de Moïse, ce n'est pas Israël? Si on rapproche les deux textes, en tout cas, c'est une suggestion qui me paraît tout à fait possible. Seulement, je dis, il faut le creuser, ça.
Non, mais justement, je vous demandais comme ça, parce que ça m'avait interpellé quand je l'avais vu.
Et oui, mais là, je...
Fait partie du sujet, vous avez
Je plaide l'ignorance.
Non, mais il y a tellement de choses dans ces trucs. Ils font tellement de rapprochements qu'on ne peut pas tous les traiter, sinon...
Oui, et puis alors, en plus, de toute façon, il y a une chose qu'il faut nous dire, c'est que la Bible, parce qu'elle est la parole de Dieu, nous pourrons lire en dedans, c'est-à-dire nous pourrons l'intelliger, nous n'aurons jamais fini, et l'Église n'aura jamais fini de la comprendre. Il y aura toujours, dans la Sainte Écriture, des tas de choses encore à percevoir, à recevoir, à écouter, à... Voilà. C'est comme un univers, la Bible. Alors l'univers, on n'a pas fini d'en percer les secrets, et la Bible aussi, on n'a pas fini d'en percer les secrets. Alors, c'est pour ça que c'est très passionnant, je veux dire, parce qu'on est toujours à se pencher à nouveau sur elle pour essayer de dire, ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et là, qu'est-ce que c'est le corps de Moïse? Est-ce que le corps de Moïse, c'est le cadavre de Moïse? Est-ce que c'est la vie de Moïse? Est-ce que c'est l'Israël, corps de Moïse, comme l'Église et corps de Jésus-Christ? Est-ce que c'est... C'est bon d'avoir à creuser comme ça. Sonder les Écritures. Il faut sonder les Écritures. On n'en finit pas de les sonder. Voilà, eh bien mes amis, en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vous avez été d'une grande ouverture, d'une grande attention. Plusieurs d'entre vous m'ont appris des choses. En particulier, je remercie ceux qui m'ont même amené à corriger des erreurs de référence que j'avais faites au sujet de texte biblique. Merci beaucoup de tout ce que vous avez été pendant ces quelques jours de maîtrise et je demande au Seigneur de bénir la fin de vos études, de bénir les ministères qu'il vous accordera, de bénir les familles que vous avez déjà ou que vous serez appelés à fonder. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit avec vous tous.